ma mère, terrorisée, courut à la cuisine et versa une casserole d'eau sur les dernières miettes de braise qui rougeoyaient encore dans le fourneau. Cependant, mon père vérifiait l'étanchéité de la lampe de cuivre et la solidité de la suspension. Ces précautions prises, l'oncle s'assit devant la table et fit placer mon père en face de lui. Ma tante, pour qui cette dangereuse cérémonie semblait n'avoir aucun secret, monta dans sa chambre pour donner son biberon au petit Pierre et n'en redescendit plus. Ma mère s'était assise sur une chaise à 2 mètres de la table. Je restais debout devant elle, entre ses genoux. Je pensais qu'ainsi mon corps la protégerait en cas d'explosion. Alors mon oncle prit une des fioles de fer-blanc et gratta avec précaution la bande gommée qui en assurait l'étanchéité. Je vis paraître, sortant du bouchon, un minuscule cordonné noir. Il le saisit délicatement entre le pouce et l'index, il tira, le bouchon suivi. Alors il inclina le goulot vers la feuille de papier blanc et une pincée de poudre noire en sortit. Je m'approchai, hypnotisé. C'était donc ça la poudre, la terrible substance qui avait tué tant de bêtes et tant d'hommes, qui avait fait sauter tant de maisons et qui avait lancé Napoléon jusqu'en Russie. On aurait dit du charbon pilé, rien de plus. Mon oncle prit un gros dé à coudre de cuivre, fixé au bout d'un petit manche de bois noir. « Voici la jaugette pour mesurer la charge, me dit-il. Elle est graduée en grammes et décigrammes, ce qui nous permet une précision suffisante. » Il la remplit à ras-bord et la vida sur le plateau du trébuchet. Le plateau descendit, puis remonta lentement et resta en équilibre. « Elle n'est pas humide, dit-il. Elle pèse son juste poids, elle brille, elle est parfaite. » Alors commença le remplissage des douilles, opération à laquelle mon père collabora. Il enfonçait sur la poudre les bourres grasses cuisinées par l'oncle Jules. Puis ce fut le tour des plombs, puis d'une autre bourre, et cette dernière fut surmontée d'une rondelle de carton sur laquelle un gros chiffre noir indiquait la grosseur du plomb. Ensuite eut lieu le sertissage. Le petit appareil à manivelle rabattit le bord supérieur de la cartouche et en fit une sorte de bourrelet qui enferma définitivement la meurtrière combinaison. « Le 16, demandai-je, c'est plus gros que le 12 ?»« Non, dit l'oncle, c'est un peu plus petit. »« Pourquoi ?»« Oui, dit mon père. » Pourquoi les plus petits numéros sont ceux des calibres les plus gros ? Ce n'est pas un grand mystère, dit l'oncle Jules d'un air doctoral, mais vous faites bien de me poser la question. Un calibre 16, c'est un fusil pour lequel on peut fabriquer 16 balles rondes avec une livre de plomb. Pour un calibre 12, la même livre de plomb ne fournit que 12 balles rondes. Et s'il existait un calibre 1, il tirerait des balles d'une livre. Voilà une explication fort claire, dit mon père. Est-ce que tu as compris ? Oui, dis-je. Plus on fait de balles avec la livre, moins elles sont grosses. Et alors ça fait que le trou du fusil est plus petit quand c'est un gros numéro. « Vous parlez bien d'une livre de 500 grammes ? » demanda mon père. « Je ne crois pas, dit l'oncle. Je crois qu'il s'agit d'une livre ancienne, celle de 480 grammes. »« À merveille, dit mon père, soudain très intéressé. Pourquoi ? Parce que je vois là une mine de problèmes pour le cours moyen. Un chasseur qui possédait 760 grammes de plomb a pu fondre 24 balles pour son fusil, sachant que le poids de l'ancienne livre est de 480 grammes et que le chiffre représentant le calibre représente aussi le nombre de balles que l'on peut faire pour son arme avec une livre de plomb. Quel est le calibre de son fusil ? Cette invention pédagogique m'inquiéta un peu, car je craignais qu'elle ne fût expérimentée aux dépens de mes jeux. Mais je fus rassuré par la pensée que mon père paraissait trop enflammé par sa nouvelle passion pour sacrifier ses vacances à la dévastation des miennes. Et la suite me prouva que j'avais raisonné juste. La soirée qui se termina par l'alignement d'un bataillon de cartouches multicolores, rangés comme des soldats de plomb, m'avait très vivement intéressé. Pourtant, je sentais une sorte de gêne, une insatisfaction dont je n'arrivais pas à préciser la cause. C'est en tirant mes chaussettes que je la découvris. L'oncle Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, lui, qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, d'un air ignare, comme un élève. J'avais été honteuse et humiliée.